France Culture.
La conversation scientifique par Étienne Klein. Aujourd'hui, Joseph Vallot ou l'art d'élever les sciences. Il y a un siècle, le 11 avril 1925, disparaissait Joseph Vallot, un homme visionnaire, plein d'humour et dont la curiosité était insatiable. Il avait passé une quarantaine d'années à étudier le massif du Mont-Blanc, sacrifiant à cette passion multiforme une bonne partie de sa fortune. Il fut notamment le premier à démontrer qu'on pouvait dormir, travailler et même faire de la science à plus de 4000 mètres, à une époque où les ascensions du sommet de l'Europe occidentale étaient encore d'aventureuses expéditions. Entre 1890 et 1925, l'observatoire scientifique que Joseph Vallot avait installé près du sommet du Mont-Blanc accueillit de nombreux chercheurs, tandis que le refuge qui lui était accolé offrait une halte bienvenue aux guides et à leurs clients en marche vers le sommet. Heureux temps où la frontière entre science et alpinisme laissait voir sa séduisante porosité. Mais qui fut vraiment Joseph Vallot? Et quels furent ses travaux scientifiques? Pour répondre à ces questions, j'ai le plaisir de recevoir Éliane Patriarca. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste et vous venez de publier un livre dans lequel toutes ces questions sont abondamment traitées. Il s'intitule « Joseph Vallot, l'histoire méconnue d'un savant alpiniste » et il vient de paraître aux éditions Glénat. Alors, quelle a été, Éliane Patriarca, votre percussion de la trajectoire de Joseph Vallot?
Je le raconte un petit peu au début du livre. Je l'ai rencontré, entre guillemets, plusieurs fois dans ma vie de journaliste. Et la première fois, c'était en 2010, en allant faire un reportage sur le glacier de Tête Rousse, dans lequel on avait découvert une poche d'eau, une énorme poche d'eau qui menaçait de se rompre et donc de se répandre sur toute la vallée de Saint-Gervais. C'était une grande crainte parce que cette catastrophe s'était déjà produite en 1892, ravageant effectivement tous les hameaux en dessous et notamment Saint-Gervais et les thermes de Saint-Gervais.
Avec plusieurs centaines de morts.
Avec 175 morts et d'énormes destructions. Et le glaciologue qui avait détecté en 2009-2010 cette nouvelle poche glaciaire dans ce glacier de Tête Rousse qui est vraiment un tout petit glacier qu'on remarque à peine, mais qui a des entrailles très profondes, m'avait expliqué que ce qui l'a guidé dans sa recherche de la poche et dans les mesures aussi de la poche, de cette cavité, c'était les travaux faits par un savant alpiniste, par un alpiniste du 19e siècle, et qu'il était étonné, justement, en travaillant lui-même sur cette nouvelle cavité, de la précision des levées topographiques et des mesures faites par ce savant. Donc c'est la première fois que j'ai mesuré l'importance de ce personnage. Et puis, son nom m'était connu parce qu'à Chamonix, il peut être connu déjà parce que la rue principale de Chamonix s'appelle rue Joseph Vallot. Même si son nom ne dit plus vraiment grand-chose de précis aux habitants de Chamonix et aux personnes qui passent à Chamonix. Et puis parce que quand on part sur la voie d'accès classique au sommet du Mont-Blanc, à un moment donné, au niveau de l'arête des Bosses, on passe devant un abri, un tout petit refuge très sommaire qui s'appelle toujours l'abri Vallot. Et ça, c'est un témoignage de toute cette épopée à la fois scientifique et alpinistique de Joseph Vallot.
Mais vous expliquez aussi dans votre livre que vous êtes biographiquement et géographiquement cerné
oui,
par Joseph Vallot, par le fait que il avait fréquenté un certain Léon Gaumont.
Absolument. Il commence à fréquenter Léon Gaumont parce que Joseph Vallot, comme beaucoup de personnes à l'époque, beaucoup de scientifiques et beaucoup de personnes de l'aristocratie, est passionné de photographie. La photographie est naissante. Et lui, ça le fascine à double titre pour dans un aspect documentaire. Il va pouvoir effectivement documenter la montagne, mais aussi dans la vie quotidienne. Et il va acheter ses plaques photographiques et tout son matériel photographique chez Léon Gaumont, qui à l'époque est à la tête du comptoir général de photographie. Et quand quand le comptoir général de photographie est vendu, Léon Gaumont doit fonder une nouvelle entreprise. Il va avoir en associé, en commandite, Gustave Eiffel, mais aussi Joseph Vallaud. Et c'est là que Léon Gaumont va fonder la société Gaumont, la société à la Marguerite, et les premiers studios de cinéma, et qui se trouvent aujourd'hui qui était sur l'emplacement qui est en face du parc des Buttes-Chaumont. Il se trouve que j'habite à cet endroit-là, c'est-à-dire exactement.
Mais vous le saviez ?
Non, pas du tout, parce que toute cette mémoire a été complètement effacée dans le quartier. Tout ce qui reste, c'est une marguerite en céramique sur d'anciens bâtiments de Gaumont. Mais toute la cité qu'on appelait la cité LG, des initiales de Léon Gaumont, et avec de multiples studios, mais aussi la maison de Léon Gaumont, tout cela a été détruit, rasé, et cette mémoire n'est pas entretenue. Donc je l'ai découvert a posteriori. Comme j'ai découvert a posteriori que des équipementiers très importants dans la carrière de Joseph Vallaud, puisque c'est eux qui lui ont fourni l'essentiel de ses instruments de mesure, donc c'était les établissements Jules, Richard et Fils, ils se trouvaient dans ce qui est aujourd'hui la rue Mélingue et qui est aussi dans le quartier entre Botzaris et entre le parc des Buttes-Chaumont et la rue de Belleville. Et voilà, moi j'habite dans ce quadrilatère-là, mais c'est petit à petit et que j'ai retrouvé des traces de Joseph Vallaud dans des livres ou en faisant ces recherches-là. Je ne le savais pas, évidemment.
Donc vous avez rédigé Eliane Patriarca, sa première biographie, on pourrait dire. Il a été...
ça n'est pas la première. La première biographie, elle a été rédigée par Robert Vivian, glaciologue, qui lui le rédige vraiment cette première biographie qui paraît en 1986, en étant un peu dans les pas du glaciologue, puisque c'est vraiment le champ que va défricher Joseph Vallaud. Et Robert Vivian, heureusement qu'il a fait tout ce travail de recherche à ce moment-là, parce qu'il a pu sauvegarder des documents très importants qui permettent aujourd'hui de continuer à travailler sur le travail de Vallaud et sur la mémoire de Vallaud.
Alors Vallaud, il a plein de casquettes. On peut le présenter comme aventurier, comme alpiniste, comme botaniste, comme naturaliste, comme physiologiste. Mais quand on regarde ce qui est écrit sur sa pierre tombale, au cimetière du Père-Lachaise, il est présenté comme astronome et géographe, alors qu'il n'a été ni l'un ni l'autre. Comment expliquer cette sorte de trahison de la mémoire ?
Alors moi, j'arrive pas à trouver une explication réelle. Surtout, je n'arrive pas à trouver une explication au fait que cette dénomination perdure aujourd'hui encore dans beaucoup d'articles qui paraissent cette année. On voit encore cette appellation d'astronome.
Mais il avait une lunette astronomique pour regarder le sommet du Mont-Blanc, mais
non.
Pas
petit. Il avait une lunette astronomique pour regarder le sommet du Mont-Blanc, mais pas à l'observatoire seulement. Il en avait une notamment en bas, à Chamonix.
Oui, en bas. Il ne s'en servait pas pour regarder les planètes.
Absolument
les
pas, voilà. Alors je pense que la confusion est venue de deux éléments. Il a effectivement appelé son laboratoire d'altitude, qui est vraiment la grande réalisation de sa vie, qu'il construit vraiment sous le sommet du Mont-Blanc. Et c'est la première construction à une aussi haute altitude à l'époque. Et bien sûr, le premier laboratoire scientifique construit à cette altitude. Et il l'appelle observatoire. Et je pense que déjà, dans l'esprit de beaucoup de personnes, un observatoire, c'était forcément un observatoire astronomique. À l'époque, Jules Janssen, donc astronome réputé, très très connu, et lui-même, dès que Joseph Vallaud a construit son observatoire en 1890, lui-même monte tout de suite voir ce dont il s'agit. Il rêve de faire la même chose, et même il rêve de faire mieux. Il veut absolument construire un observatoire au sommet du Mont Blanc, ce qu'il va faire 3 ans après. Et lui, par contre, bien sûr, c'est un observatoire astronomique. Et il va y mener des travaux importants. Je pense que cette confusion, elle vient de là. Ce que je ne m'explique pas, c'est pourquoi elle n'a jamais été corrigée depuis, ne serait-ce que par la famille, les descendants de Valot, sur la chapelle sépulcrale qui est...
Il n'y a pas de rature sur les tombes.
Non, voilà, c'est ça.
Alors, commençons par le commencement. Où est-ce que Joseph Valot est-il né? Et où?
Il est né à Lodève, dans l'Hérault. Sa mère était originaire de Lodève et c'était une famille d'industriels du textile, de la laine. Et son père, lui, qui était parisien, est venu vivre à Lodève, donc avec son épouse. Joseph naît vraiment à Lodève, dans la ville de Lodève, et trois ans après sa naissance, son père achète une grande villa qui sera appelée la Villa Saint-Martin. Entouré d'un très grand parc qui va être la maison où Joseph et son frère aîné vont grandir, vont passer toute leur vie jusqu'à leur à peu près 11 ans. Et à 11 ans, ils sont scolarisés à Paris.
Dans le quartier du Marais.
Exactement.
Et les bulletins scolaires de Joseph Valot ne sont pas terribles.
Ça dépend.
Alors, ça dépend dans quelle discipline, en effet. Ils sont adressés à ses parents, là, quand il est en classe de 7e, un commentaire adressé donc à ses parents signale un ralentissement dans le zèle de notre petit écolier et des places fort laides en thème et en orthographe. Et on se plaint de son ardeur douteuse et bien intermittente au travail.
C'est d'autant plus drôle, a posteriori, quand on voit à quel point la valeur travail a été importante pour Joseph Valot, qui n'a jamais eu d'employeur, qui n'a jamais eu de patron, mais qui a travaillé toute sa vie, en fait, qui s'est autodiscipliné, enfin, pour lequel vraiment le travail avait une valeur extrêmement importante, tout comme...
Peut-être qu'il avait trop d'énergie pour rester assis à l'école.
Ah, c'est clair. Il a des très bonnes notes en éducation physique, en sport, et il est, dès qu'il peut, c'est-à-dire dès qu'il retourne à Lodève à toutes les vacances, il est dehors, il est à jouer à l'extérieur dans le parc, il est après à arpenter toutes les causes des Cévennes, du Lodévois, l'Arzac, donc les environs de Lodève. Et même avec son cousin Henri, très jeune, ils vont faire des grandes randonnées en ce qui s'appelle à l'époque le vélocipède. Oui, je pense qu'il avait tout témoigne d'un besoin énorme d'activité physique et d'activité physique dehors.
Bon, donc il naît à Lodève, il est scolarisé à Paris. Rien ne le prédispose à aller à Chamonix, à rencontrer la mer de glace.
Non.
Comment est-ce que ça se passe?
Rien dans sa famille, rien dans son environnement. En revanche, ce qui le prédispose à la montagne, c'est que depuis tout petit, il a vraiment un goût pour l'observation naturaliste. Et particulièrement, ce sont les études qu'il va mener à la Sorbonne, au Muséum. Il se spécialise en botanique et en géologie. Et il va toute sa vie travailler vraiment sur le rapport entre les plantes et le sol, la géographie du sol et la nature des plantes. Et il est vraiment passionné de ça depuis l'enfance, et son herbier, il le commence très tôt. De même qu'il est passionné par l'observation de la météorologie, on a retrouvé un cahier qu'il avait fait dès l'âge de 16 ans, où il note chaque jour l'observation du temps. Et donc ce goût pour l'observation naturaliste et pour la botanique particulièrement l'amène à herboriser partout et à partir très vite, très tôt dans sa vie dans les Pyrénées. Et là, il gravit un petit peu tous les petits sommets. Et là, il mélange vraiment deux de ses passions, c'est-à-dire à la fois justement l'effort physique, la randonnée, déjà une forme d'ascensionnisme. À l'époque, on parlait d'ascensionnisme et non pas d'alpinisme. On sent qu'il a ce besoin et en même temps l'observation, puisqu'il consigne tout de manière très précise, et il commence à constituer un herbier qui va l'accompagner toute sa vie.
Alors, quand est-ce qu'il va à Chamonix pour la première fois?
Il y va à l'occasion d'un congrès de la Société Géologique de France, donc c'est une société savante. Il a 21 ans, 1875. Cette société organise, comme très souvent, un grand congrès, et les congrès de la Société de Géologie, ça se matérialise par une excursion de 10 jours, en l'occurrence, entre la Suisse et la France, pendant lequel donc ce groupe de géologues va explorer le massif du Mont Blanc sous l'aspect géologique et notamment sous la houlette d'un géologue qui est à l'époque très réputé, qui s'appelle Alphonse Favre, qui est suisse et qui est notamment le géologue qui a fait connaître ce qu'étaient les blocs erratiques et qui les a reliés à l'histoire des glaciers et surtout qui a organisé la protection, la sauvegarde de ces blocs erratiques. Donc cette excursion, elle les amène de Suisse jusqu'à Saint-Gervais, Chamonix. Et de là, au Brévent, ils vont gravir plusieurs sommets. Et bien sûr, ils vont à la mer de glace. Chaque excursion s'accompagne bien sûr de conférences, d'explications très pédagogiques des géologues qui les entourent. Il y aura aussi Viollet-le-Duc qui vient dans cette excursion. Donc à l'époque, il est donc architecte, mais aussi passionné par les reliefs du massif du Mont-Blanc et passionné par la cartographie. Donc à 21 ans, Joseph Vallaud a à la fois un coup de foudre incroyable qu'il décrit très bien, hein, la première fois qu'il voit les glaciers et la mer de glace, c'est un émerveillement.
C'est un choc esthétique.
Et en même temps, il y a une révélation de nature scientifique, c'est-à-dire qu'il pressent à travers à la fois ce que dit Alphonse Favre, mais aussi ce qu'il imagine comme naturaliste et comme botaniste et comme passionné déjà de montagne, il pressent la mine d'informations que peut être ce massif du Mont Blanc. Il pressent aussi que c'est un laboratoire, que ça peut être un laboratoire à ciel ouvert, et que c'est une mine d'informations infinie.
Mais qu'est-ce qu'on sait, Eliane Patriarca, à l'époque de la vie des glaciers ? Moi, j'ai vu, par exemple, que certains pensaient que les glaciers ne pouvaient que croître. Par exemple, le poète Percy Shelley écrit en 1816 « Si la neige qui produit ce glacier doit s'accroître et que la chaleur de la vallée ne représente pas un obstacle à l'existence perpétuelle de masses de glace comme celles qui y sont déjà descendues, la conséquence est évidente, les glaciers ne peuvent que croître et ils perduront au moins jusqu'à ce qu'ils aient envahi la vallée. » Un peu plus tard, Alexandre Dumas écrit « La mer de glace est un océan gelé au milieu du bouleversement d'une tempête, avec ses vagues aux mille formes qui s'élèvent à 60 ou 80 pieds de haut et ses gerçures qui s'enfoncent à 4 ou 500 pieds de profondeur. » Et pour lui, la mer de glace était statique. On la voit telle qu'elle a toujours été. Et lui, il pose la question de la dynamique de la mer de glace.
Alors en fait, jusqu'à l'époque de Joseph Vallaud jeune, on n'explore pas les glaciers, on n'explore pas la haute altitude. C'est vraiment une terra incognita. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on fait plutôt de la paléo-glaciologie, c'est-à-dire qu'on étudie les traces que les glaciers ont laissées. On va étudier les moraines, on étudie les blocs erratiques dont j'ai parlé. Et les géologues, comme Alphonse Favre, eux savent très bien qu'il y a déjà eu des phases de retrait des glaciers. Parce que pendant cette excursion justement de la Société géologique de France, ce que Alphonse Favre fait remarquer, notamment à la mer de glace, mais pas seulement, à ses étudiants et à ses passionnés de géologie qui sont avec lui, il fait remarquer justement les traces qui montrent que le glacier était plus avancé ou plus grand qu'il ne l'est à l'époque où il le contemple. Mais il faut se replacer donc dans ces années 1875-1880, c'est le moment où l'alpinisme se développe vraiment et où on commence à aller en haute altitude, on commence à explorer la haute montagne. Et c'est le moment aussi où justement tous ceux qui sont passionnés à la fois de haute montagne et de science vont s'intéresser, et c'est vraiment le cas c'est vraiment ce que va défricher Joseph Vallaud, à la mécanique glaciaire, à la dynamique en fait, au mouvement des glaciers, à essayer de comprendre comment ils avancent, comment ils bougent, et à même à essayer de mesurer, de quantifier ce mouvement. Ça va être vraiment l'un des énormes champs d'études de Joseph Vallaud.
Et vous citez aussi, Eliane Patriarca, Viollet-le-Duc,
oui,
l'architecte restaurateur, qui, dit-il, recherche dans le chaos des montagnes une structure cachée. Et il écrit un peu plus loin, « Le Mont Blanc est une ruine. On peut en retrouver la forme primitive en se dirigeant d'après des idées analogues à celles qui sont appliquées à la restauration d'un monument. » C'est une phrase incroyable.
C'est une phrase incroyable, et Viollet-le-Duc, donc qui vient faire une conférence durant cette excursion géologique, il a je pense qu'il, là aussi, il a énormément marqué Joseph Vallaud à ce moment-là, ce jour-là. On le retrouve dans la bibliothèque Joseph Vallaud avait une bibliothèque immense, il l'a léguée à la ville de Nice, et on retrouve dans sa bibliothèque tous les ouvrages écrits par Viollet-le-Duc. Et je pense que c'est une pensée, une réflexion et une manière de voir la montagne qui l'a complètement marqué et orienté toute sa vie.
Mais on a l'impression que Joseph Vallaud, il s'intéresse à tout. Il s'intéresse même aux plantes sauvages, y compris en ville, celles qui poussent
sur le bitume. Et il s'y intéresse, et il s'y intéresse d'une façon qui peut nous paraître aujourd'hui complètement moderne. Il a réalisé dans les années 1880, il se lance dans un inventaire de la flore. C'est d'ailleurs le premier inventaire de la flore urbaine qu'on connaisse, dans un inventaire de la flore des rues de Paris, des espaces publics de Paris. Et il le fait, et il publie donc cet atlas dont aujourd'hui Nathalie Machon, qui est écologue au Muséum d'Histoire Naturelle, qui a lancé un programme de sciences participatives qui s'appelle Sauvage de ma rue, qui consiste à aller justement observer, inventorier, recenser les plantes dans les rues de Paris pour avoir une idée de la biodiversité sauvage, de la biodiversité végétale dans les rues de la capitale, a retrouvé donc cet atlas et s'est aperçu que le protocole de recensement, de collecte qu'avait mis au point Joseph Vallaud est exactement correspondait point par point à celui qu'elle avait mis en place pour la collecte de sauvages de ma rue. Ce qui lui a permis donc de faire en 2021 la comparaison à 140 ans d'intervalle entre la biodiversité végétale observée par Vallaud, donc dans un Paris qui est le Paris juste post-haussmannien, hein, donc, au Paris de 2021, parce que ça a été fait avec une telle précision et une telle rigueur.
Ça fait référence.
Ouais, exactement.
Alors, il écrit « Paris a bien changé de face. On n'y trouverait pas un coin qui ne soit pavé, bitumé ou macadamisé. Une armée d'ouvriers munis de lances d'arrosage et de balayeuses mécaniques exécute un nettoyage journalier des rues. Et si quelques petites plantes se risquent à pousser entre deux pavés, des préposés, soucieux de la propreté des voies, s'empresse de l'arracher à l'aide d'instruments spéciaux. »
Oui, il avait déjà vu le rôle destructeur du nettoyage et des produits de nettoyage sur sur les plantes, sur la biodiversité. D'ailleurs, ce qui est étonnant, c'est que Nathalie Machon retrouve dans Sauvage de ma rue à peu près le même nombre, c'est-à-dire quelques 200 espèces dans les rues de Paris à l'époque de Vallaud et 140 ans plus tard, donc en 2021. Répartis différemment, avec plus de biodiversité, plus de variété dans chacune des rues, et sur les quais de Paris aussi, qui sont beaucoup plus enherbés qu'ils n'étaient à l'époque. Mais c'est quand même très intéressant d'avoir cette comparaison possible.
Eliane Patriarca, parlez-nous de son mariage avec Gabriel.
Ah, un mariage d'amour. Un mariage donc en 1879, il épouse Gabrielle Perroux, qui est une très lointaine cousine, et c'est un mariage étonnant, une union étonnante de complicité, parce que dès qu'il se marie, donc Gabrielle est issue d'une famille, une grande famille bourgeoise, et donc elle a été.
C'est l'une des reines du monde parisien.
Elle sera, on le voit à travers des articles de magazines de l'époque, de revues de l'époque. Elle est connue pour être toujours très élégante, une hôtesse très reconnue dans son accueil des invités. Mais en même temps, c'est aussi une jeune femme qui, comme Joseph, a le goût de l'effort physique, de la nature, et qui va le suivre, l'accompagner partout, notamment donc dans ses explorations dans le massif du Mont-Blanc, qui très vite est contaminée par le goût de Joseph pour les cimes, et qui va elle aussi se lancer dans les ascensions, donc avec des guides qui sont souvent les mêmes guides que les guides habituels de Joseph Vallaud, puisqu'à l'époque, bien sûr, ces aristocrates, ces bourgeois font ces ascensions toujours avec des guides, hein, ils ne partent pas seuls. Et elle est aussi l'une des premières femmes à publier justement un article sur ses ascensions dans le massif du Mont-Blanc, et dans cet article qui est publié dans l'annuaire du Club Alpin Français, qui a été fondée en 1874 et dont ils sont membres tous les deux dès 1880-81. Elle publie donc, elle raconte ses ascensions, elle raconte surtout à quel point elle a été gênée dans les premières par ses vêtements féminins.
Les jupes.
Ses jupes de laine, à quel point elle voyait à peine ses pieds, donc ses appuis, sa jupe traînait dans la boue.
Et elle s'accroche partout.
Et elle s'accroche
Ainsi
partout.
Ainsi qu'elle a pu en faire, je la cite, l'expérience l'année dernière à l'aiguille du goûter.
Voilà, exactement. Et elle dit que très vite, elle a abandonné ces vêtements-là et elle a opté pour le costume masculin qu'elle décrit en détail comment elle s'habille et en disant surtout, ne portez pas de corset parce que ça vous empêcherait absolument de respirer et ça rendrait impossible tout effort en montagne. Il faut se rendre compte qu'à l'époque, c'est quand même... Ça paraît révolutionnaire. Les femmes alpinistes de l'époque, ascensionnistes de l'époque, souvent, d'autres mettaient des pantalons, mais ce qu'elles faisaient, c'est que juste avant d'être visibles de Chamonix, elles remettaient vite une jupe, une robe sur ses pantalons. Elle le revendique, et elle le revendique en incitant toutes les femmes à surtout pas se laisser intimider et impressionner par ce que l'on peut leur raconter des ascensions, et à se lancer bien équipées, bien habillée, mais à se lancer dans ses ascensions.
Est-ce qu'on peut dire que Gabriel et Joseph ont tous les deux un psychisme ascensionnel, comme dirait Bachelard, c'est-à-dire que ils ont besoin d'aller là-haut. Je cite Joseph Vallot, « Le vide attire, dit-on, pour moi, qui ai horreur du vide autant que la nature des anciens, je suis plutôt attiré par les montagnes, ces eaux de la terre, OOS, comme disait Rabelais, et je ne puis pas voir un pic sans avoir la tentation de poser le pied sur son sommet. »
Oui, je crois que pour Joseph, c'est très clair. La haute montagne, c'est vraiment une passion et c'est vraiment une aspiration. Il y a une image qui m'est restée parce qu'il l'a décrit lui-même et qui m'évoque des photos très contemporaines. Il un peu plus tard, donc dans sa vie, une fois qu'il aura construit son observatoire au sommet du Mont Blanc, il va se lancer dans une campagne d'observation de la mer de glace. Et pour cette campagne d'observation, il aura besoin d'y aller, bien sûr, régulièrement et de relever son matériel régulièrement. Et il se décrit avec ses guides comme des gamins en train de sauter de crevasse en crevasse pour aller relever leurs appareils. Moi, ça m'a fait penser à des images de l'ultra-trailer Kilian Jornet il y a quelques années, il y a peut-être 10-12 ans, où on le voyait sauter de crevasse en crevasse sur la mer de glace en basket et ça avait fait un peu scandale auprès des guides de Chamonix parce que c'était pas forcément ce qu'on recommande à tout le monde. Il n'empêche, ce plaisir enfantin, oui, je crois que c'est vraiment une aspiration au cime. Ceci dit,
mais il aime le danger.
Il aime l'exploration. Il aime l'exploration.
Il fait l'ascension de l'aiguille du Dru. Il écrit « On montrait gaiement sans les pierres qui sifflent aux oreilles ».
Oui, tout à fait. Il est très étonnant parce que je crois qu'il aime l'inconnu. Il aime l'exploration. Il aime la découverte. J'en parle à un moment donné, mais je pense que vraiment c'était quand même un client fabuleux pour ces deux guides, parce que il ne se plaint jamais, évidemment, en montagne, il ne se plaint jamais de la météo. Au contraire, on a l'impression qu'il est ravi quand la météo commence à devenir un peu mauvaise, austère, hostile, parce que ça va lui permettre d'étudier ce que ça produit en montagne. Je pense qu'il y a cette part d'exploration qui est aussi le propre, là aussi il faut se replacer à la fin du 19e siècle, c'est quand même le siècle de l'exploration et on le voit parce que lui et Gabriel vont aussi se lancer dans l'exploration des gouffres et des grottes du Lodévo-Larzac. À une époque où le mot spéléologie n'a même pas été inventé.
On parle de grottisme.
On parle de grottisme.
De grottologie.
Et grottologie. Et Martel, qui est vraiment le pionnier et le créateur, l'inventeur de la spéléologie, préfère grottologie parce que c'est plus scientifique. Les Anglais de l'Alpine Club appelleront ça l'alpinisme à rebours. Et effectivement, c'est aussi parce que les pionniers de la spéléologie utilisent exactement les mêmes techniques qu'on utilise alors en montagne pour le même matériel. Et on sent bien que c'est cette volonté de défricher l'inconnu, d'aller explorer ces terra incognita qui sont la haute altitude à l'époque les glaciers, le monde des glaciers comme les sous-sols, qui les meut, qui les agite et qui les dirige.
Mais ce qui m'impressionne, c'est que lorsqu'il a fait la première ascension du Mont Blanc, en tout cas sa première ascension, il emporte avec lui toutes sortes d'instruments de mesure, des thermomètres, un polygraphe, c'est-à-dire un instrument qui mesure la fréquence cardiaque, la pression sanguine et le volume sanguin, un sphygmographe qui mesure le pouls, un spiromètre, capacité pulmonaire, un thermographe, un pneumographe, etc. Alors que d'habitude, quand on fait le Mont Blanc pour la première fois, on essaie plutôt de s'alléger, même si j'imagine que ce sont des guides qui ont porté le matériel.
Alors, la toute première fois, je pense qu'il a fait vraiment une ascension d'ascensionniste avec ses deux guides. C'est en 1880, et il a son certificat, on a retrouvé donc son certificat. À l'époque, il y a la Compagnie des guides de Chamonix qui est la seule habilitée à donner un certificat
d'ascension. Vous avez raison, celle dont je parle, c'est celle du 6 août 1886.
Voilà, exactement. Et déjà en 1886, il est déjà dans une campagne de, à la fois, il a un programme durant cet été 86 absolument hallucinant, où il mélange, il a un programme très, très organisé, très méthodique pour mêler ascension et donc entraînement, vraiment, c'est comme un sportif de haut niveau. Donc il a vraiment un programme d'ascension très défini, mais qui se mêle à un programme d'inventaire botanique. Il mêle complètement les deux. Et tous les jours, il est en montagne, et tous les jours, il est en train de faire des ascensions et d'herboriser. Et effectivement, première ascension au Mont Blanc, il en fait plusieurs dans l'été, mais il en a plusieurs aussi, où il monte effectivement avec énormément d'appareils de physiologie, notamment, et de photographie, dont une partie est portée par ses guides, mais dont il porte lui-même une bonne partie également. Et là, on sent déjà ce qui va suivre dans les années d'après, c'est cette volonté de science in situ, c'est-à-dire de tout d'emporter son laboratoire avec lui et de travailler vraiment dans la nature.
Il montre par exemple que la température, quand on s'élève, diminue, mais pas de façon linéaire comme on le croyait, c'est plus compliqué. Et puis, il découvre aussi que l'alcool, c'est pas très bon quand on est
tout à fait.
Contrairement à la réputation qu'on lui donne, et cette information scientifique n'a pas percolé, comme vous le savez, dans tous les esprits.
Non, et d'ailleurs, il est très fasciné, il a une grande curiosité pour ce qu'on appelle à l'époque déjà le mal des montagnes, dont on connaît très peu de choses, sinon des symptômes, évidemment. Mais très vite, il a quand même la certitude que l'alcool que les guides servent à leurs clients quand ils les sentent un peu défaillir n'est pas le meilleur remède contre ce mal des montagnes et pas la meilleure façon de terminer l'ascension. Donc lui c'est quelque chose qu'il bannit très vite. En revanche, on le voit dans les moments... dans les expéditions difficiles qu'il va faire ensuite, on voit que quand ils sont l'un ou l'autre atteints des nausées, de mal de montagne, de maux de tête aussi permanents, une petite gorgée d'élixir de chartreuse, un des moines de chartreuse, les remet en forme. Mais effectivement, il s'intéresse beaucoup à ça et il va là aussi documenter le manque d'oxygénation qu'on ressent à haute altitude. Ce facteur-là a déjà été montré par un médecin qui s'appelle Paul Bert, mais lui va le démontrer par l'expérimentation et surtout l'expliquer par la manière dont les poumons fonctionnent différemment avec la pression. Ce qui explique cette plus faible oxygénation.
Donc on peut dire qu'il est physiologiste en l'occurrence.
Oui, il va pas faire de grandes révélations ou de grandes découvertes en physiologie, mais il va confirmer par l'expérimentation. Et surtout, il est absolument fasciné par ça. Il a acheté, il s'est équipé des équipements des appareils de mesure de physiologie les plus pointus. Ce sont ceux qui ont été mis au point par Étienne Jules Marais. Et il les emporte au sommet du Mont Blanc et il fera toute sa vie, il fera des expériences. Alors sur lui-même d'abord, justement en 1887, comme vous le citiez, il observe effectivement sa température, son rythme cardiaque, comment tout son organisme fonctionne, la réaction au froid, bien sûr. Et parfois, ce seront les guides qui lui serviront de cobaye.
Et il y a un patriarcat, il y a aussi ce premier bivouac au sommet du Mont Blanc, trois nuits de suite.
Ouais.
Un truc incroyable parce que personne ne pensait qu'on pouvait tenir aussi longtemps dans ces conditions. Il écrit « J'ai le caractère ainsi fait qu'une chose me semble toujours possible lorsqu'elle est utile. »
Oui,
une espèce de foi dans le progrès caractéristique de cette époque.
Caractéristique de cette époque, voilà. Je crois que c'était vraiment c'est le côté un peu Jules Verne aussi de certaines de ses expéditions. Et lui était un grand lecteur de Jules Verne, et le frère de Jules Verne était Paul Verne, était un des membres du club alpin français éminent. Et effectivement, en 1887, il réalise vraiment ce qui est une première mondiale, aussi bien dans le domaine de l'alpinisme que dans la science. Ça va marquer l'histoire des deux. Aujourd'hui, on s'en rend moins compte parce que on a évidemment l'habitude d'expéditions en haute altitude. Mais à l'époque, on considérait que passer une nuit au sommet du Mont Blanc, c'était la mort assurée. Et personne ne l'avait fait, sauf un physicien irlandais, John Tyndall, et ses guides, qui avait voulu monter au sommet du Mont Blanc pour faire des expériences. Et en l'occurrence, ils avaient été pris par une très mauvaise météo qui les avait obligés, là c'était une contrainte, à passer une nuit non prévue au sommet du Mont Blanc. Nuit durant laquelle ils ont tous été malades. Tyndall était bien sûr dans l'incapacité de faire une quelconque mesure, une quelconque observation, tellement ils étaient mal. Et tous, dans le récit qu'ils font, décrivent cette scène comme une scène de l'enfer, et comme un miracle qu'ils en soient réchappés. Mais donc ça avait contribué à accréditer l'idée qu'on ne pouvait pas survivre en haute altitude, on ne pouvait pas passer...
Que le Mont Blanc est un minotaure.
Voilà, c'est ce que Joseph Vallaud reprend. Il dit, voilà, il y a un préjugé qui est très ancré chez les Chamoniards et qui est un obstacle à mes projets, c'est que le Mont Blanc est un minotaure qui avale les personnes qui ont le...
On pourrait dire que c'est un préjugé culturel.
Oui.
Et alors lui, il va montrer qu'il est faux. Ils vont même s'amuser au sommet du Mont Blanc. On a l'impression qu'ils sont pris par une très forte gaieté, ils plaisantent.
Oui, et ça c'est aussi caractéristique de la démarche, là on peut dire scientifique, de Joseph Vallaud, qui était il n'était pas conformiste, il ne se laissait pas influencer par des préjugés ou des a priori, et surtout, il dit à un moment donné, mais tout préjugé peut être déraciné par justement la démonstration, par l'expérience. Et pour convaincre ses guides, qui sont pourtant déjà devenus des amis et qui ont vraiment foi en lui, mais qui hésitent vraiment à l'accompagner pour ces 3 jours, 3 nuits au sommet du Mont Blanc, parce que tout le monde autour d'eux leur dit « mais vous allez y laisser votre vie, c'est de la folie ». Il se dit « la seule manière d'y arriver, de les convaincre, c'est de faire une démonstration in situ ». Et donc il organise une première ascension au sommet du Mont Blanc, avec eux et avec tous ces instruments, et c'est une ascension préparatoire qui lui permet de laisser au sommet un grand nombre d'appareils sous un abri, une première tente, et de bien leur rabâcher pendant toutes les heures qu'ils vont passer au sommet et qui se passent très très bien, que finalement voilà, on peut manger, on peut se reposer et on peut travailler. Et ils sont convaincus. Et
en fait, on a quelques nausées et une petite perte d'appétit.
Voilà. C'est ça qui l'intéresse aussi, c'est qu'il s'aperçoit et il constate d'emblée que le mal des montagnes, c'est pas prévisible. On peut en être atteint même avec une très grande expérience de la haute altitude, et même sans l'avoir jamais connu. Tout d'un coup, un jour, ça peut être le cas. On peut en être atteint et puis ça peut passer pendant les heures d'après. Il étudie aussi tout ça et ça le fascine, la réaction de l'organisme et la manière dont à la fois corps et cerveau sont capables de dépasser ces malaises-là.
Il s'acclimate,
voilà.
Alors il y a un Anglais qui passe par là pendant ces 3 jours, il lui donne du courrier pour la vallée.
Il lui donne une lettre pour Gabrielle.
Qui est restée en bas.
Voilà, qu'il a écrite.
Est-ce qu'on les voit depuis Chamonix grâce à cette fameuse lunette?
Alors, il y a la lunette qui permet de voir là-haut, mais surtout, dès qu'ils sont arrivés déjà, et chaque soir, ils allument soit un feu de Bengale, des feux qui permettent de voir, qui permettent aux habitants de la vallée, aux habitants de Chamonix, de vérifier que les 4 hommes qui sont montés, puisqu'ils sont 4 en fait, sont vivants et que tous...
Ils plantent des drapeaux aussi régulièrement.
Ils plantent des drapeaux, voilà.
Mmh. Alors comment est-ce qu'ils sont accueillis à Chamonix à leur retour?
C'est une ovation générale. C'est vraiment, je pense qu'on a du mal à se rendre compte de ce que ça représentait. Mais tout le village, tous les habitants sont là, les accueillent. C'est une haie d'honneur. Le maire, bien sûr, mais tous les guides de la compagnie sont là. Ils sont sous un monceau de de fleurs et eux-mêmes sont tellement fatigués. Un peu, on dirait aujourd'hui, un peu décalqués par cet effort-là, qu'ils ont presque du mal à réaliser cet accueil féerique qu'il aurait fait. Je crois que surtout, ce dont Joseph va se rendre compte dans les jours suivants, c'est que, évidemment, la nouvelle a traversé les frontières très très vite. Et en fait, c'est à partir de ce moment-là que sa renommée devient internationale, parce que personne n'avait jamais fait ça. Et ça, c'est la porte ouverte à l'alpinisme, à la conquête des hauts sommets, puisqu'on sait maintenant qu'on peut... on peut dormir à cette altitude. Ça veut dire aussi qu'on va pouvoir construire des refuges très hauts pour continuer l'exploration des hauts sommets.
Alors lui, il va construire un refuge observatoire qui va devenir ce que vous appelez un phare de la science. Mais comment est-ce qu'on s'y prend pour construire aussi haut, à 4500 mètres en l'occurrence ?
Ça, c'est toute l'épopée de la construction des refuges dans le massif du Mont-Blanc et en montagne en général. C'est une entreprise énorme pour laquelle, là encore, il va lui falloir convaincre énormément de porteurs, énormément de guides, puisque évidemment, à l'époque, tout est porté d'abord à dos de mule jusqu'au Grand Mulet, donc au refuge des Grands Mulets, et puis après à dos d'homme. Et ça demande une logistique énorme. Il va calculer qu'aucune charge ne doit dépasser un mètre, je crois que c'est 1,50 m de hauteur, pour qu'elle puisse être portée à dos d'homme. Il va calculer donc l'organisation de ses charges, tandis que Gabrielle, sa femme, se charge de tout le ravitaillement, de toute la logistique, de préparer toute cette logistique, d'acheter tout ce qu'il faut et aussi de recruter des porteurs. Les guides, bien sûr, et ces guides qui vont monter avec lui, vont être aussi ceux qui vont construire le premier observatoire qui a une taille réduite, hein, qui a seulement 4 pièces, dont ça a été le compromis qui a été trouvé avec la commune, le village de Chamonix à l'époque. Le terrain qu'il avait choisi, donc qui n'est pas au sommet du Mont-Blanc, mais à 300 mètres en dessous, c'est une concession en fait que lui fait la commune. Et en échange, on lui demande de construire ou d'ouvrir une pièce qui servira de refuge aux guides et à leurs clients, aux premiers ascensionnistes, touristes. Ce qu'il fait bien volontiers, parce que lui-même a déjà aussi, c'est là aussi où il est très visionnaire, il a déjà la vision de ce que va devenir le tourisme d'altitude et comment les ascensions vont pouvoir se développer, comment les guides vont pouvoir gagner leur vie en emmenant des touristes au sommet du Mont-Blanc. Et ça va marcher très très vite, très tôt, dès la construction de l'observatoire et du refuge.
Alors dans le refuge, il y a un poêle qui est monté, qui permet d'atteindre, dans cet endroit très froid par ailleurs, des températures positives qu'il appelle sénégaliennes.
Exactement.
Et ils reçoivent la visite d'un pape, enfin d'un futur pape.
Oui.
En 1890, je crois.
Oui, c'est pour l'inauguration, absolument.
C'est Pie XI.
Voilà, Achille Ratti. Italien et qui deviendra Pie XI, mais qui était un passionné de montagne et d'alpinisme. À l'époque, il n'est que entre guillemets Achille Ratti, et il laissera sur le livre d'or de l'observatoire un témoignage. Il y a lui, il y a aussi, comme je le disais tout à l'heure, l'astronome Jules Janssen qui va venir voir très tôt, très vite. Beaucoup de personnalités viennent pour tout de suite au moment de l'inauguration, donc à la fin de l'été 1890.
Mais il y a des projets délirants qui sont associés à cette entreprise. Enfin, on sent vraiment qu'on est pris par l'idée de progrès à fond les ballons. On veut construire un chemin de fer jusqu'au sommet du Mont-Blanc.
Oui. Et il en est partie prenante, Joseph, avec son cousin Henri Valot, parce que ça les fascine, effectivement. Et eux, et ils vont travailler avec Saturnin Fabre, qui est l'ingénieur qui mène ce projet. Mais ce n'est pas leur projet qui sera retenu, finalement. Et la ligne de chemin de fer va commencer à se construire, mais elle s'arrêtera au Nid d'Aigle. Elle est toujours arrêtée au Nid d'Aigle.
Mais à l'origine, elle devait aller au-delà.
Elle devait aller jusqu'au sommet, oui, du Mont-Blanc, avec une sorte de tunnel dans la montagne qui monterait jusqu'au sommet.
Est-ce qu'on peut revenir sur la catastrophe de 1892,
oui,
qui l'a vraiment marqué ? Vous en avez parlé au tout début de notre émission, mais elle a laissé une trace dans la vallée de Chamonix. On voit des gros rochers qui sont tombés à ce moment-là du côté de la commune du Fayet, qui est...
La commune de Saint-Gervais.
Saint-Gervais aussi, à côté de Chamonix. Comment est-ce que ça a marqué les esprits à l'époque et quelle a été la contribution de Joseph Vallaud dans la compréhension de ce qui s'est passé?
Alors, ça se passe donc durant l'été 92. Joseph Vallaud est comme tous les étés de sa vie depuis un certain nombre d'années. Il passe l'été à Chamonix avec sa famille et il passe l'été à travailler évidemment à une bonne partie en haut dans son observatoire, donc en altitude. 1892, donc c'est la catastrophe dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire qu'une poche d'eau qui était dans les entrailles du glacier Tête Rousse se rompt, une lave torrentielle se répand sur toute la vallée de Saint-Gervais, détruit les hameaux, détruit les thermes de Saint-Gervais, et le lendemain matin, enfin quand il fait jour, on voit très vite qu'il y a une forme bizarre sur le glacier de Tête Rousse, on l'aperçoit. Et ce que font les ingénieurs des eaux et forêts qui sont dépêchés sur place pour aller analyser les causes de cette catastrophe, comprendre ce qui s'est passé, mais bien sûr ils appellent tout de suite Joseph Vallaud, qui à l'époque est quand même le personnage au monde qui connaît le mieux les glaciers et la dynamique glaciaire. Et donc c'est tout naturel pour eux d'aller le chercher. C'est entre Saint-Gervais et Chamonix, il y a une vingtaine de kilomètres. Donc il arrive tout de suite, et ils montent tous les trois, avec les deux ingénieurs des eaux et forêts, donc ils montent jusqu'au glacier de Tête Rousse, et là, effectivement, ils s'aperçoivent qu'il y a une cavité béante, dans laquelle aussitôt Joseph descend, et non seulement il descend, mais il va faire tous les relevés topographiques à l'intérieur, toutes les mesures avec les appareils de l'époque, avec les instruments de l'époque. Il découvre qu'il n'y a pas une poche, enfin pas une cavité, mais deux cavités. Et là, pareil, il continue à progresser avec les ingénieurs des eaux et forêts dans ces cavités. Il faut se rendre compte, pour tous ceux qui sont descendus dans ce type de cavité, et ça a été le cas donc en 2010 quand la poche s'est reformée dans le glacier de Tête Rousse et qu'on a pu descendre une fois qu'elle a été vidangée à l'intérieur, il faut se rendre compte que ça bouge en permanence sous les pieds, c'est un peu comme une sorte de tapis roulant, il y a un bruit de craquement permanent et aujourd'hui on a quand même plus de connaissances sur ce qui s'y passe, on peut mesurer aussi le danger. À l'époque, on ne sait rien. Donc, il faut voir aussi l'audace de ces hommes qui descendent vraiment dans des grottes glaciaires sans savoir du tout ce qui s'y passe. En tout cas, il en profite pour faire des photos, pour faire toutes les mesures. Et il fait un compte-rendu, un article qu'il envoie, bien sûr, aux eaux et forêts. Et ce qui est très frappant, c'est qu'il explique très bien que pour lui, ce qui s'est passé va se reproduire. C'est impossible, à son avis, que le glacier reste statique et sans danger. Et donc, il conseille de trouver un moyen de drainer l'eau qui s'accumule à l'intérieur du glacier. Et c'est effectivement ce que les eaux et forêts vont faire. Elles vont mettre en place un système de drainage, mais surtout, elles vont mettre en place un système de surveillance du glacier.
Mais il a aussi l'idée, Eliane Patriarca, de poser ce qu'il appelle des pierres peintes sur les glaciers. C'est quoi le but? De voir comment elles dérivent.
C'est pas lui qui l'invente, hein, cette méthode. Cette méthode de poser des jalons, qui peuvent être des bâtons. Lui, il va utiliser un système de pierres peintes, qu'il dépose donc dans des lignes, avec ses guides. Il dépose des lignes de pierres peintes sur la mer de glace. Et ça lui permet, de saison en saison, de venir voir, bien sûr, l'emplacement de ces pierres est noté très précisément sur les cartes. Et de saison en saison, il peut venir, du début à la fin de la saison, ils viennent relever l'endroit où se trouve à nouveau la ligne de pierre. Et ça leur permet de mesurer l'écoulement du glacier et le temps aussi, la vitesse d'écoulement du glacier.
Et ça permet aux guides de s'amuser.
Et c'est écrit, tous les trois, oui.
Les guides prenaient un réel plaisir à ces expériences. Cette chasse à la pierre les passionnait et nous cherchions notre gibier avec ardeur, sautant par-dessus d'énormes crevasses, gravissant les arêtes les plus tranchantes, sans cordes, chacun de son côté pour expliquer une plus grande partie du glacier.
Voilà, moi c'est l'image qui m'est restée et à laquelle je faisais allusion tout à l'heure, effectivement.
Oui, c'est Kylian Jornet qui...
Oui, tout à fait.
Mais c'est pas du tout ce qu'on enseigne à l'école des guides.
Hein. Non, absolument pas, ni ce qu'on est censé faire derrière un guide. Mais
il y a aussi des flotteurs glaciaires, c'est la même chose ?
Oui, enfin c'était encore plus expérimental, on va dire, dans la mesure où on progressait hein, dans l'étude de la vitesse d'écoulement des glaciers et dans leur mouvement, mais bien sûr on avait encore plein de connaissances à acquérir. Et l'une de ses idées, c'est d'enfouir des flotteurs, ce qu'il appelle des flotteurs glaciaires, c'est-à-dire des objets numérotés très précisément, accompagné d'un document dans lequel il écrit que tous ces objets ont été déposés à la demande de Joseph Vallaud, et il demande à toute personne qui les retrouverait de les rapporter à un naturaliste, à un scientifique dans la vallée, et d'apporter ainsi la preuve, en fonction de l'emplacement où ils auraient été retrouvés, de la manière dont le glacier a bougé et a évolué.
Qu'est-ce qu'on en a retrouvé ?
Aujourd'hui, on n'en a jamais retrouvé officiellement. Est-ce que certains en ont retrouvé? Parce qu'il avait laissé aussi des caisses de vin. Et peut-être qu'elles ont été retrouvées, mais qu'elles n'ont pas été amenées. Voilà, je ne sais pas. En tout cas, officiellement, on ne les a pas retrouvées encore.
Il y a des expériences étonnantes. Vous parlez d'un médecin, Raoul Bayeux, en 1913, qui était un ami de Vallaud, qui fait monter par ses porteurs des écureuils au sommet du Mont Blanc pour compter, pour évaluer comment varie leur performance physique avec l'altitude. On compte le nombre de tours que font des cylindres installés dans une cage en une journée, et on compare les résultats dans la vallée aux résultats au sommet de la montagne.
Je suis pas sûre que ça sera très bon pour la réputation du docteur Raoul Bayeux, parce qu'en termes de maltraitance animale, je pense qu'il pourrait être aujourd'hui tout à fait repris. Mais c'était effectivement des expériences qui ont permis de confirmer ce qu'on savait, justement, ce que montraient les appareils et les études de physiologie.
924 tours de roue par jour dans la vallée, au sommet, contre plus de 6000 à Chamonix.
Voilà.
Mais c'est peut-être pas simplement le physique qui est compté là. C'est peut-être aussi le psychisme. Peut-être qu'ils n'ont pas envie là-haut de...
Peut-être, peut-être, mais leur ralentissement correspond bien au nôtre aussi en altitude.
Eliane Patriarca, on entend bien en vous écoutant toutes les contributions scientifiques de tous ordres de Joseph Vallaud, mais est-ce qu'il a été reconnu par le monde académique ?
Non, jamais. Et notamment, on le voit très bien à travers l'exemple de Jules Janssen, qu'il a toujours considéré comme un amateur, mais dans le mauvais sens du terme, c'est-à-dire que d'ailleurs il l'a qualifié parfois, il est allé jusqu'à le qualifier d'aubergiste pour avoir justement hébergé à l'observatoire du Mont Blanc tous les scientifiques. C'était une des missions qu'il avait donné à son observatoire, c'était accueillir les scientifiques du monde entier qui étaient intéressés par la haute altitude, et tout cela gratuitement, donc tout cela financé sur ses données personnelles.
Comment vous expliquez cette sorte d'ingratitude? Par la jalousie, par le ressentiment?
Je pense qu'il y avait de la rivalité, de la jalousie, mais aussi le fait que Joseph Vallaud a toujours été un indépendant, qu'il a financé tout seul ses recherches grâce à sa fortune personnelle. Et ça, c'était très mal vu, je pense, des scientifiques qui étaient à l'Académie des sciences, qui étaient enseignants, qui étaient professeurs, qui étaient reconnus par l'Académie, on va dire. Lui ne l'a jamais été. Et il fait partie de ce que Nathalie Richard, qui est historienne des sciences, appelle les amateurs éclairés, qui à l'époque, donc entre 1850 et jusqu'aux années 1950, ont joué un rôle crucial, fondamental dans l'acquisition des connaissances, notamment pour toutes les disciplines qui nécessitent des observations de terrain, des observations de naturalistes, et notamment la botanique par exemple, mais la météorologie aussi. Et l'Académie les a plutôt minoré, le monde académique a plutôt minoré leur rôle et leur apport. Peut-être aussi, il y avait cette jalousie, vous parliez de jalousie, peut-être aussi parce que justement, Joseph Vallaud, par exemple, il a choisi lui-même le champ et l'objectif de ses recherches. Il s'est toujours défini des axes de travail lui-même. Il les a financés lui-même en toute liberté.
Il ne les a pas envoyés à des agences de programme?
Non, pas du tout.
Comment est-ce que se termine sa vie? Enfin, il fait une dernière ascension, vous la racontez en détail.
Oui.
C'est la 34e.
C'est sa 34e.
Il a 66 ans.
Oui.
Comment ça se passe?
Il a décidé de faire cette dernière ascension. Il sent très bien. Il a des problèmes de santé qui sont dus justement à tout le temps qu'il a passé en haute altitude.
Combien de temps au total, si on peut le calculer?
Alors, on a calculé approximativement. Il aurait passé une année complète en altitude. Et il faut se rendre compte qu'une année complète à 4800 mètres à peu près d'altitude, c'est loin d'être sans conséquence sur l'organisme humain. Lui a un rhumatisme oculaire particulièrement douloureux. Il a des rhumatismes aussi articulaires. Il a fait quelques maladies respiratoires à certains moments de sa vie. Et il sent bien que son énergie physique, en tout cas, décline, même s'il continue absolument tous ses travaux, et notamment ses travaux de cartographie, et il continue à publier énormément d'articles scientifiques. Il décide, en 1920, de remonter pour un dernier programme de recherche qu'il s'est fixé. Donc, il veut rester encore une bonne dizaine de jours en altitude, parce qu'il a un programme très dense. Mais en même temps, c'est aussi un hommage, et il emmène tous ses enfants avec lui, donc ses enfants qui sont adultes à l'époque, Madeleine, sa fille aînée qui est mariée au peintre Paul-Franz Namur. Il amène André, son fils aîné, René, son fils cadet, et ils montent tous ensemble fêter cette dernière ascension. Et c'est très très émouvant le récit qu'il en fait au retour. Il laisse notamment sur le livre d'or du refuge des Grands Mulets un texte qui a vraiment une tonalité crépusculaire et qui a un côté résigné. Il sait que c'est sa dernière ascension. Il sait qu'il ne remontera pas. Et il sait que c'est la dernière fois qu'il montera au sommet de cette montagne qu'il a vraiment adorée et de son observatoire. L'espoir qu'il garde et ce qu'il veut absolument, c'est que cet observatoire qu'il a construit, ce que j'ai appelé ce phare de la science, contribue à la poursuite des recherches scientifiques et serve aux générations futures. Il a vraiment cet objectif-là.
Et il dit aussi que la montagne, enfin l'alpinisme, est un mixeur social.
Oui.
Il écrit « Les courses en montagne nous mettent en contact avec nos guides, c'est-à-dire avec le peuple, avec le paysan que nous ne connaissons pas assez, et elles nous aident à nous dépouiller d'une sotte fierté. »
Oui, et il faut vraiment entendre ces paroles sans nos préjugés, c'est-à-dire quand il parle des paysans de l'époque, c'est vraiment ce qui était la population essentielle de Chamonix et ce qui étaient les guides aussi. Et il n'y a aucun quand on voit les excellentes relations amicales qu'il avait avec ses guides et il n'y a aucun préjugé social. Et au contraire, je pense que vraiment il a été aussi apprécié par la population de Chamonix pour tout ce qu'il a apporté comme développement économique et comme emploi aux porteurs, aux guides et à tous les habitants de Chamonix.
Il y a un patriarcat, il a quand même une fin de vie assez triste. Il divorce, il a été endeuillé par la mort d'un fils. Et on sent que c'est plutôt triste à la fin.
Alors, ce divorce, oui, déjà, il est très triste, très dur, très houleux. Donc ça, je pense que ça l'a beaucoup marqué, mais il a aussi été très marqué par la perte de Paul, son fils, le troisième de ses enfants, qui meurt à 20 ans, probablement d'une maladie respiratoire, et qui était sur ses traces en tant qu'alpiniste, sportif, puisqu'il faisait des premières en montagne, mais aussi des compétitions de ski qui étaient naissantes à l'époque. Lui s'installe à Nice à la fois parce qu'il y a il y vit parce que le climat est bénéfique pour sa santé. Ces années sont tristes, en même temps elles ne sont pas du tout elles sont à l'image de toute sa vie, c'est-à-dire qu'il continue à travailler tout le temps, il développe des recherches.
Je vais citer la dernière phrase de votre livre, Elina Patriarca, qui résume tout. Il écrit « Saussure, en descendant du Mont Blanc, disait que l'expérience qu'il n'avait pas pu y faire n'y serait jamais entreprise. Le monde a un siècle de plus. » Et aujourd'hui, nous sommes portés plutôt à prédire qu'à nier les choses difficiles. Merci à vous d'être venu parler de ce personnage haut en couleur. Je recommande la lecture de votre livre, Joseph Vallaud, l'histoire méconnue d'un savant alpiniste. C'était la conversation scientifique par Étienne Klein, avec la collaboration de Thierry Beauchamp, à la technique Sofiane Aktib et à la réalisation Luc-Jean Reynaud.